Bonsoir, j'ai honte.
Depuis 5 jours, les agriculteurs ont peur d'une concurrence venue d'Amérique du Sud qui serait dopée par un accord de libre-échange.
C'est plus facile d'aller acheter des produits à l'autre bout du monde parce que c'est pas cher, on va aller les chercher ailleurs et on va sacrifier l'agriculture. Donc c'est une vision à court terme. Sur le long terme, c'est une catastrophe.
Cet accord entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique latine, le Mercosur, angoisse les agriculteurs mais suscite de grandes accolades entre chefs d'État. À terme, les Sud-Américains pourraient exporter sans droit de douane notamment de la viande ou encore du sucre vers l'Union européenne. Et dans l'autre sens, l'Europe pourrait exporter entre autres ses voitures, ses médicaments et ses vins. Doper le commerce international, c'est aussi l'objectif du CETA, un autre traité de libre-échange négocié avec le Canada cette fois. Il a été approuvé en Conseil des ministres aujourd'hui. En attendant son arrivée à l'Assemblée nationale dans 2 semaines, ses détracteurs se mobilisent. En première ligne, Nicolas Hulot, qui ne mâche plus ses mots contre le gouvernement auquel il appartenait il y a encore un an.
Le libre-échange est à l'origine de toutes les problématiques écologiques. L'amplifier ne fait qu'aggraver la situation. Il faudra d'ailleurs comprendre un jour qu'une des premières obligations va être de relocaliser tout ou partie de nos économies.
À ce jour, l'Union européenne négocie une dizaine d'autres accords de libre-échange. Sont-ils le meilleur moyen d'assurer la prospérité de l'humanité ou la pire menace contre le climat ? Faudra-t-il choisir entre consommation locale et croissance mondiale ?
Qui national trouve un intérêt à ces accords mondiaux ? C'est forcément les Veolia, les Vinci ou autres LVMH qui profitent de ces grandes zones sans barrière douanière ? Ou bien est-ce que ça peut permettre peut-être, Maxime Sbahy, à une PME française de trouver des marchés là où elle n'en trouvait pas, là où c'était peut-être fermé pour elle avant ?
Ça peut permettre à beaucoup de gens en fait, d'accroître la richesse, la croissance, de créer des emplois. Le dernier accord qui a été signé, qui a été ratifié là, il n'y a pas très longtemps avec le Mercosur, permet par exemple aux vignerons français d'aller exporter le vin avec des appellations d'origine contrôlée dans des nouveaux marchés, 270 millions de consommateurs. Donc le petit vigneron français a aussi à gagner dans ces accords de libre-échange puisque tous les secteurs sont concernés. On entend les agriculteurs qui effectivement sont des potentiels perdants de cet accord-là, ça existe, il ne faut pas le nier, mais on entend rarement les potentiels gagnants dans le secteur automobile, la machinerie, la pharmacie, l'industrie chimique, les produits laitiers. Donc vous avez quand même beaucoup de secteurs qui, eux, peuvent en bénéficier. Ceux-là, on les entend moins, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas les gagnants de ce genre d'accord.
Auriez trouvé, vous avez l'air sceptique, les petits aussi peuvent gagner à ce genre d'accord, ou seuls les grands acteurs, les multinationales, peuvent y trouver leur compte ?
Alors déjà, il y a des études qui sont sorties macroéconomiques pour définir s'il y a ou pas gain d'emploi ou gain de production de richesse nationale. Il faut savoir que c'est très controversé. Il y a des études qui disent qu'on en gagne, d'autres qui disent qu'on va au contraire perdre.
Petits producteurs ou des PME.
Alors, moi, je vais prendre un exemple très concret qui est l'agriculture. Effectivement, on sait par exemple que l'accord avec le Canada ou encore l'accord pour lequel on vient d'avoir un accord politique avec le Mercosur, l'Argentine, le Brésil, etc. On sait que ça va menacer fortement les agriculteurs parce qu'on n'a pas du tout les mêmes normes, on n'a pas du tout. C'est une concurrence déloyale parce qu'on n'a pas les mêmes normes de production, on n'a pas les mêmes structures de production. Par exemple, on engraisse, faut savoir qu'on engraisse la plupart des bêtes au Canada dans d'énormes feedlots, à plusieurs dizaines de milliers de bêtes, qu'on utilise des antibiotiques activateurs de croissance qui est tout à fait interdit en Europe, que par exemple on les nourrit en farine animale, qui se nourrissent de maïs et soja ou gemme, etc. Tout un tas de processus de production qui permettent de baisser les coûts de production, ce qui crée une concurrence déloyale et ce qui risque de supprimer énormément d'emplois, mais aussi de supprimer par exemple les prairies, parce que la viande bovine en France, c'est aussi les prairies.
On évoquera aussi les autres enjeux écologiques, environnementaux, autres, mais vous évoquez la question de l'emploi, Aurélie Trouvé. Précisément, l'enjeu de ces accords de libre-échange, il tient en un chiffre relatif à l'emploi, Claude.
Oui, un chiffre que met en avant la Commission européenne, 3 comme les 3 millions d'emplois en France qui sont liés aux exportations en dehors de l'Union européenne. Question pour vous, Alire Fabry, c'est au nom de ces 3 millions de personnes qui travaillent en France, à la grande exportation, qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'il n'y a pas de marche arrière dans la mondialisation ?
Non, la mondialisation, d'abord, ça a été fait, il faut distinguer deux choses. Ça a été fait, en effet, on l'évoquait tout à l'heure, parce qu'on a pu réduire le coût des transports, mais par des innovations technologiques, le Internet, évidemment, qui permettait d'aller chercher des clients à travers le monde. Et ça a été accompagné par des accords commerciaux. Si aujourd'hui, l'Union européenne reste la première puissance commerciale mondiale, ça dit quelque chose, y compris dans le secteur agricole, y compris pour les exportations agricoles, ça dit quelque chose, quand même, des avantages qu'ont trouvé l'ensemble des Européens. En effet, il y a un chiffre sur les exportations qui dépendent directement, des emplois qui dépendent directement de ces exportations, mais c'est le citoyen consommateur aussi qui en bénéficie. Alors maintenant, c'est vrai qu'on rentre dans une phase où on se pose beaucoup plus sérieusement la question des inégalités de répartition des bénéfices et des problèmes de redistribution de l'emploi.
Quand vous dites que les consommateurs en bénéficient, ça veut dire que ces accords, ils contribuent à faire baisser les prix?
Oui, de fait, les prix à la consommation ont beaucoup baissé depuis 30 ans pour tout ce qui est des biens de consommation courante en tant que tel.
Ça, pour vous, c'est un apport de la mondialisation et du libre-échange?
En tant que tel, oui. Ça a été un bénéfice pour l'émergence d'une classe moyenne qui a pu aussi accéder à un niveau de consommation différent. Une consommation qu'aujourd'hui, on est en train de réviser en se disant qu'il faut aussi peut-être qu'on freine une consommation frénétique. Mais la question, la question plus fondamentale, c'est l'effet distributif sur l'emploi. Des secteurs qui en ont bénéficié, des secteurs qui en ont pâti. Plus encore que grandes et petites entreprises. Parce que les petites entreprises, au contraire, ont pu s'insérer aussi sur des chaînes de production internationales et s'ouvrir à des marchés beaucoup plus importants. Et ça, c'est par l'ouverture des échanges.
Vous parlez à l'instant du consommateur. McKinsey, le consommateur ne veut pas payer trop cher. Sa viande, par exemple, on le comprend. Il veut aussi rester en bonne santé. Quand il trouvait, parlait des modes de production au Canada, des médicaments, de ces farines animales qu'on a supprimées en France, qu'on a supprimées en Europe parce qu'on ne pouvait plus tenir. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai danger pour notre santé, pour notre intégrité, pour notre environnement dans cet accord qui vient d'être passé avec le Mercosur ou dans l'accord avec le Canada?
Quand vous êtes face au consommateur de choisir, l'important c'est qu'il ait, ait l'information.
C'est aussi au gouvernement, et après je vous rends la parole, c'est aussi au gouvernement et à l'Union européenne de me protéger, moi, consommateur. Je ne suis pas censé savoir.
Alors, vous êtes censé être responsabilisé en tant que consommateur, c'est-à-dire que vous devez avoir les informations nécessaires. Ensuite, c'est à vous de faire le choix. Si vous voulez consommer du bœuf argentin, il n'y a personne qui va vous dire maintenant c'est interdit. Si vous voulez, par contre, consommer quelque chose de beaucoup plus local parce que vous avez une sensibilité écologique qui est plus développée, rien ne vous empêchera de le faire. C'est-à-dire que personne ne vous obligera à aller acheter des produits venant de l'autre bout du monde.
Désolé, est-ce que vous pouvez me dire que ce n'est pas dangereux de consommer du bœuf qui sera nourri quelque part au Canada par des farines animales? On m'a dit à moi en France que ça l'était. Est-ce que ce sera dangereux?
Écoutez, je ne suis pas scientifique, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, ce qui est sûr,
c'est que
vous aurez le choix de consommation. Ce choix-là, vous l'avez aussi aujourd'hui. Quand vous êtes dans un rayon et que vous achetez de la volaille ukrainienne ou d'autres pays, vous ne savez pas forcément exactement ce qu'il y a dedans, quelle est la provenance. Mais la question, pour moi, elle n'est pas là. La question, c'est l'éventail du choix, c'est la traçabilité des produits, c'est l'information du consommateur. Et c'est, in fine, le consommateur qui, lui, a le droit de décider ou pas de consommer tel ou tel produit.
Aurélie Trouvé, il y a aujourd'hui des normes quand même dans la production, notamment les productions agricoles relatives aux farines animales ou aux OGM, ces normes, elles peuvent être menacées par la conclusion de ces accords de libre-échange?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Europe, on a des normes globalement sociales, fiscales, environnementales, de santé, de protection de l'environnement, sanitaire, de santé du consommateur, qui sont globalement plus élevées que dans la plupart des autres pays du monde. Pourquoi? Parce que, voilà, on a des préférences collectives pour la santé et l'environnement, il y a eu des batailles pour ça, et ces accords vont nous mettre en concurrence avec des pays qui, globalement, sur beaucoup de secteurs, ont des normes plus faibles. Donc non seulement ça va nous faire consommer, sans le savoir bien souvent, des produits dont on ignore, dont le consommateur en fait ignore les conditions de production. Par exemple, là, je reprends la viande, c'est un exemple très concret. Quand vous la mangez au restaurant ou dans des plats transformés, vous n'en connaissez pas l'origine. Donc vous consommerez de la viande avec par ailleurs de la traçabilité et des contrôles qu'on connaît très faiblement. Enfin, en tout cas, on a beaucoup moins de maîtrise et de contrôle sur les normes, évidemment, quand c'est produit à l'autre bout de la planète. Et puis aussi, il faut bien voir que le fait d'importer beaucoup plus tous ces produits-là, ça va faire pression sur nos propres normes. Parce qu'évidemment, les patrons, les producteurs, et c'est ce qui se passe déjà sur les normes sociales et fiscales, vont nous dire, et c'est à juste titre,
fort en Europe
à juste titre, vont nous dire, mais vous nous mettez en concurrence, et c'est ce que disent d'ailleurs la FNSEA, vous nous mettez en concurrence avec tel ou tel pays, par exemple, qui utilise le glyphosate, donc on ne va pas interdire le glyphosate. Donc ça fait pression sur nos propres normes, sur les normes, et aussi sur les salaires et la fiscalité. On n'arrête pas de nous dire, on est en concurrence, donc il faut baisser les salaires.
Un mot, Elvire Fabry, et on avance.
La nouvelle génération d'accords commerciaux qui vient d'être négociée ces dernières années est chargée beaucoup plus en exigences normatives. Et c'est précisément, on se sert de ce levier des négociations bilatérales pour demander à nos partenaires de respecter les conventions internationales, sociales, environnementales. Et c'est quelque chose, c'est une nouvelle démarche de la politique commerciale européenne, beaucoup plus offensive sur ces questions-là. Et si on n'utilise pas le levier du commerce, justement, pour aller exercer une pression sur nos partenaires économiques pour qu'eux-mêmes transforment leur mode de production, À ce moment-là, il n'y a qu'un isolement.
Alors, il n'empêche que les conséquences. Et on va avancer un petit peu sur justement à propos d'un accord en particulier, qui est le Mercosur, donc qui est un accord entre l'Europe et quatre puissances d'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay. Les débats sur les conséquences de cet accord-là, bah, ils divisent y compris les élus de la majorité, Claude.
Et vous allez entendre une députée, elle parlait hier à l'Assemblée nationale, son discours est très virulent. Pourtant, Yonel de Courson est élu La République en marche, élu de Côte d'Or. Écoutez en quels termes elle dénonce l'accord qui vient d'être passé entre l'Union européenne et le Mercosur. Et est-ce que Madame de Courson pêche par pessimisme? Vous pensez que l'Union européenne est capable de rendre vertueux écologiquement, socialement, les gens avec qui nous passons des accords?
Mais bien sûr, déjà, ce n'est pas un passage en force, puisque tous les États membres doivent ratifier, le Parlement européen doit voter ça, donc c'est tout à fait démocratique. Ça fait 20 ans que c'est négocié.
Et les parlements nationaux devront aussi le voter, y compris le Parlement français.
Donc c'est pas du tout un passage en force, bien au contraire. Et puis ensuite, sur l'écologie, on est la première puissance commerciale au monde, c'est-à-dire qu'on est capable, nous, d'aller imposer dans les négociations nos termes. Ça, c'est quelque chose, c'est la beauté de l'Europe, ça, c'est une des grandes utilités de l'Europe, c'est qu'on est le premier marché, le plus grand marché intégré au monde, on représente 500 millions de consommateurs, donc tout le monde a envie d'avoir accès à notre marché. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Mercosur? On a réussi à tordre le bras à Jair Bolsonaro pour qu'il revienne dans les accords de Paris. Le président de Paris, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel.
On peut lui faire confiance à Jair Bolsonaro?
Ah bah, c'est-à-dire que
c'est encourageant de signer un tel accord avec Jair Bolsonaro.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un revirement de la part du Brésil, justement parce qu'il a envie de signer cet accord. Et donc ça, c'est la force de cet accord, c'est-à-dire que ça pourra bénéficier à l'accord de Paris sur le climat. Donc c'est quand même quelque chose qui est positif.
Vous pensez que Bolsonaro, pour avoir accès à nos marchés, peut renoncer à détruire la forêt amazonienne, peut avoir un soja vertueux?
Alors il faut penser du point de vue sud-américain. Le Brésil a 25% de taux de pauvreté. C'est un pays qui est encore en développement, qui a énormément de problèmes économiques. Donc pour eux, c'est une très belle opportunité et ils sont prêts à beaucoup de choses, y compris à faire un revirement sur le climat.
Il y a des contraintes dans le Mercosur qui obligent Bolsonaro justement à ne pas...
En tout cas, c'est ce que... Alors, il faut que ça soit ratifié, mais en tout cas, c'est ce que les signataires, et c'est ce que la France d'ailleurs a mis devant pour justement la signature.
Alors, vous évoquez la ratification. La ratification des traités, précisément, c'est vrai qu'elle n'a rien d'inéluctable, elle n'a rien d'automatique. On a vu des accords de libre-échange qui n'ont pas été ratifiés, là, non?
Mais oui, souvenez-vous, il y a 3 ans, tout juste, un autre accord avait capoté le... TAFTA avait fait pchit, c'était entre l'Europe et les États-Unis, et on s'était dit alors, fin de l'histoire. Eh bien non, un traité peut en cacher un autre. L'Europe n'est pas réfractaire du tout à ce genre d'accord, bien au contraire. D'abord, à défaut de signer avec les États-Unis, on en a parlé, les Européens vont sans doute s'accorder avec le Canada. La France a validé de son côté aujourd'hui même. Pourtant, toutes les multinationales américaines ont des filiales au Canada. Le CETA serait-il le cheval de Troie de l'Amérique de Trump? En tout cas, les questions sanitaires ou agricoles, elles restent absolument les mêmes. Par ailleurs, l'Europe négocie des accords sur tous les continents. En février, l'Union européenne a signé un accord avec le Japon. 635 millions d'habitants concernés au total. Ça fait un tiers du PIB mondial. C'est le plus grand accord commercial jamais signé pour l'Union européenne. Et c'est simple, ça fait même la plus grande zone de libre-échange du monde entier. Ce n'est pas tout. L'Europe a validé d'autres accords dans l'indifférence générale. Un accord commercial avec le Vietnam le mois dernier et avec Singapour il y a 6 mois. Et puis il y a ces négociations qui sont toujours en cours avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Pourtant, là aussi, il y a des sujets sensibles, puisque ce sont de gros producteurs de lait, de produits laitiers, de blé, de bœuf. Pourquoi, Aurélie Trouvé, pourquoi l'opinion publique se focalise comme ça sur certains accords et pas sur d'autres? On entend beaucoup parler du CETA et du Mercosur, mais par exemple, avec Singapour ou le Vietnam...
Vous avez tout à fait raison. Il y a en fait une offensive généralisée en termes de libéralisation des échanges via ces accords de libre-échange qui visent bien à baisser, voire supprimer la plupart des droits de douane et à baisser les barrières non tarifaires, donc les normes de protection de l'environnement, de la santé, etc. Donc, sur en matière... harmoniser, et comme nous, on a les normes parmi les plus élevées du monde... Comme on harmonise, forcément...
On tire vers le bas pour
voir. Désolée, pour l'instant, on a plutôt intérêt... On est plutôt en train d'abaisser via ces accords, je pourrais y revenir. Je voudrais revenir sur la question de Bolsonaro, quand même, parce que sur l'écologie. D'abord, certes, il affirme l'engagement de l'accord de Paris, mais il a énormément augmenté ses gaz à effet de serre. Il est en train, il soutient énormément l'agro-business. Il est en train de violer les droits des